Une vie, une œuvre, Leonard Cohen, 1934, Québec, 2016, États-Unis. C'est à Montréal, chez Nathan Cohen et Masha Klonitsky, que naît Leonard Norman. À l'âge de 9 ans, il fait face au décès de son père. Gilles Tortjman raconte que le jour de son enterrement, le jeune Léonard découpe une couture de sa cravate, y glisse un texte et l'enfouit dans le jardin de la maison familiale. De ses études, il écrit « Rien ne me rappelle davantage l'odeur d'un abattoir que l'enseignement supérieur ». Son chemin de poète le conduit en Grèce, où il écrit son premier roman, « The Favorite Game ». Il a 32 ans, quand paraît « Les perdants magnifiques », qui lui vaut une forte célébrité. L'année d'après, il chante et triomphe à Rhode Island, et en janvier 1968, sort son premier album. À la gloire succède la dépression. Le punk relègue les chanteurs folk. Sa vie prend un autre cours. En 1996, il est ordonné moine bouddhiste. En 2011, le prix Prince des Asturies des Lettres lui est donné pour son œuvre poétique. Élise Andrieux signe, avec Céline Terce, Une vie, une œuvre, Leonard Cohen.
Paris sky is blue and bright. I want to fly with all my might. Her legs are long, her heart is high. The chains are strong, but so am I.
Qui par le feu? Qui par l'eau? Qui dans le soleil? Qui pendant la nuit? Qui par grande épreuve? Qui par jugement commun? Qui, dans votre joyeux, joyeux mois de mai? Qui par très lente décomposition? Et qui, devrais-je dire, est celui qui appelle?
Who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who, shall I say, is calling?
Je me souviens que dans ma petite chambre, j'avais créé un petit coin avec un canapé pour écouter ces disques. Je mettais cette chanson quand je dansais avec mes amants ou avec les... C'était quelque chose qui faisait partie d'un rituel il y a longtemps.
Tout d'un coup, il y a cette voix qui rentre dans votre chambre et qui vous parle à vous. Parce que c'est you. Donc on est très interpellé toujours par Cohen. Il vous parle.
Et puis en 88, j'ai 14 ans. Je me souviens du clip vidéo de First We Take Manhattan, où il y a cet homme en manteau noir sur une plage qui, d'une voix très grave, chante un espèce d'appel métaphysique et guerrier face à la mer. Et je trouve ça fascinant. Je me dis, waouh! J'ai 14 ans et je me dis, tiens, c'est ça être un homme. Il faut être un prophète face à la mer et dire des choses. Donc ça, c'est les premières images, je crois, qui m'ont marqué.
Leonard Cohen. Transformer le noir en lumière. Un documentaire d'Élise Andrieux et Céline Terce.
Prologue au paradis. Dieu dit que Leonard Cohen soit, et un petit Eliezer Leonard Nehemias Cohen fut, dans une famille d'entrepreneurs, de philanthropes et de rabbins. Nous sommes en 1934 à Montréal et l'enfant reçoit un héritage, 3000 ans de judaïsme, toute la poésie de langue anglaise et un goût très sûr en matière d'élégance masculine. Arrive le mort du père lorsque le garçon a 9 ans, qui enterre un papier griffonné dans un nœud papillon. Premier poème, première intuition que l'écriture est l'unique arme pour nommer les choses qui n'ont pas de nom. Cohen hérite d'un revolver et apprend que son nom veut dire « prêtre » en hébreu. Attiré par l'hypnose et par Garcia Lorca, il explore adolescent tous les mystères du monde, les jukeboxes de Montréal, les corps nus des femmes et les poussées de bile noire. Mais en 1954, consécration. Un disciple de Ezra Pound le déclare poète. Fin de premier acte et lancement d'une carrière. Leonard part à l'assaut des 60s.
Je m'appelle Christophe Lebold. Je m'intéresse à Leonard Cohen parce que il réinvente le poète spirituel et la poésie, on va dire, de spiritualité comme quelque chose de fondamentalement subversif. Il affirme qu'il y a une vie cachée, une vie clandestine, une vie secrète qui se déroule à l'intérieur de nous. Et qui est la vie du cœur, en fait. Et que cette vie, il nous dit, c'est la vie réelle. C'est la vie qui fonde l'autre vie, la vie sociale. Et la vie du cœur, c'est une vie subversive parce que c'est une vie dans le feu. Well, I am the one who loves changing from nothing to one. C'est une chose qu'il adore dire, qu'il a répété beaucoup en interview, et je trouve que c'est une de ses images les plus fortes. Il dit « Le cœur brûle dans notre poitrine comme de la viande de kebab sur sa broche. » Avec tout ce qu'on peut imaginer de graisse qui coule et d'odeur qui s'en dégage. Et personne ne le maîtrise, il est trop chaud pour le corps. Là, on est au cœur de l'univers de Leonard Cohen. C'est qu'il y a quelque chose dans nos poitrines qui brûle et qu'on ne maîtrise pas, qui est pris dans les flammes du désir et dans les flammes de l'amour. Et cette chose-là, elle va subvertir nos vies. On ne va pas la contrôler. Elle est incontrôlable, elle est irréductible. If you should ever track me down, I will surrender right there. I'll leave with you one broken man whom I will teach you to repair. Et lorsque je découvre qu'il est aussi, enfin qu'il a aussi une carrière de poète et d'écrivain qui précède sa carrière de chanteur et de songwriter, je découvre Beautiful Losers, son roman, Les Perdants Magnifiques en français. C'est une espèce de saga sur trois personnages hallucinés dans le Montréal des années 60 qui sont tombés amoureux d'une sainte iroquoise du XVIIe siècle et qui essayent de faire l'amour avec cette sainte. C'est d'ailleurs pas le terme qu'ils utilisent, ils disent qu'ils veulent baiser cette sainte. Mais ils se posent la question de comment faire pour faire l'amour avec une sainte qui est morte au XVIIe siècle. Donc ils vont le faire par l'écriture et ils vont le faire par l'hallucination. Et c'est un roman qui joue avec plein de mythologie, qui joue avec la culture pop aussi de l'époque. Ça évoque le Montréal des années 60, les salles de flippers, le cinéma. Et c'est écrit avec une force poétique absolument incroyable, autour vraiment de cette idée que l'appel de l'amour, c'est évidemment le désir. Et le désir, on sait tout ce que c'est une brûlure. Et il y a au cœur de son œuvre cette idée que le centre du plan divin, c'est la rencontre charnelle de l'homme et de la femme qui transforme le monde et qui maintient le monde en vie. Et c'est toujours un épisode divin. Il a beaucoup dit « Je suis un pêcheur, mais Dieu pêche avec moi. » Et j'existe pour que Dieu puisse pêcher. Ça veut dire que faire l'amour, c'est un alléluia de chair.
Les flammes poursuivaient Jeanne, qui chevauchait à travers l'obscur. Pas de lune pour faire briller son armure, pas d'homme pour la mener hors de la nuit. Je suis lasse de cette guerre, dit-elle. Je veux retrouver les travaux de naguère. Une robe de mariée ou quelque chose de blanc pour habiller mon appétit dévorant. Eh bien, je suis ravie de t'entendre ainsi dire. Toi que j'ai regardé chevaucher tous les jours. Quelque chose en moi brûle de te conquérir. Héroïne si froide et si solitaire. Et qui es-tu ? Dit-elle sévèrement, à celui qui se tenait sous la fumée. Je suis le feu, répliqua-t-il. Et j'aime ta solitude. Et j'aime ta fierté.
Pour lui, le corps dénudé de la femme, c'est la matière transformée en lumière. Il y a un très beau texte qui est inédit dans les archives qu'il a légué à l'université de Toronto, qui est un texte qu'il écrit à 20 ans. 20 ans, hein, c'est jeune pour faire de la métaphysique du corps de la femme. Il fait dans ce texte du métaphysique de la corps de la femme et il dit il faut se méfier de la lumière qui se dégage du corps d'une femme, car si on reste trop longtemps dans son étreinte, on devient pure lumière. Donc voilà, faut se méfier.
Alors feu, rends ton corps froid, je te donnerai le mien à enlacer. À ces mots, elle grimpa vers lui pour être la seule et l'unique fiancée. Et au plus profond de son cœur ardent, il prit la poussière de Jeanne. Et alors seulement elle comprit que s'il était le feu, oh elle devait être le bois. J'ai vu ses cris. J'ai vu sa douleur et j'ai vu la gloire dans ses yeux. Moi-même, j'aspire à l'amour et à la lumière. Mais doivent-ils venir si cruels et oh, si brillants?
C'est si long d'achever une chanson. Et malgré mes efforts, je ne peux pas aller plus vite. Il s'agit d'explorer jusqu'au fond mes sensations et parvenir à une écriture qui émane vraiment du cœur.
Fais-moi danser à ta beauté avec un violon enflammé. Fais-moi danser dans la panique jusqu'à juste sois en sûreté. Lève-moi comme une branche d'olivier et sois ma colombe de retour. Fais-moi danser jusqu'aux fins de l'amour.
Et nous connaissons tous la perte, le manque, le désir. Et voilà ce que nous cherchons tous. Apaiser le cœur brisé. Apprendre à vivre avec le cœur brisé. Nous ne voulons rien d'autre.
A burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins ont disparu. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois à Babylone. Révèle-moi lentement ce dont je connais seulement les limites. Fais-moi danser jusqu'à la fin de l'amour. Fais-moi danser jusqu'à la fin de l'amour.
Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking.
Fais-moi danser pour les enfants qui demandent à naître. Fais-moi danser à travers les rideaux que nos baisers ont usés jusqu'à la corde. Dresse une tente pour nous abriter, même si chaque maille part en lambeaux. Caresse-moi de ta main nue ou caresse-moi de ton gant. Fais-moi danser jusqu'à la fin de l'amour. Fais-moi danser jusqu'à la fin de l'amour.
Il n'y a pas beaucoup de chansons de vraiment d'amour chez Cohen. Hein. Il y a des chansons de non-amour. Il y a quelques textes où l'amour physique apparaît de façon très belle, par exemple dans Dancing to the End of Love, quand vous regardez vraiment les paroles. C'est un acte d'amour. Mais je trouve que non, il n'y a pas... Ces belles chansons d'amour, pour moi, sont des chansons qui disent adieu.
Leonard Cohen, c'est un grand poète d'amour, mais c'est quelqu'un qui a toujours organisé sa propre mort comme homme à femme, qui a toujours mis à mort l'homme à femme, et montré que personne ne contrôle l'amour, pas Don Juan, pas Casanova, ils ne contrôlent pas l'amour, ils sont sujets à l'amour et sujets de l'amour au sens de suggestion. Je veux dire, l'amour est souverain. Donc il y a ça, il y a l'autodépréciation, et puis il y a l'idée que on n'est jamais à la hauteur. Et il dit « I was never any good at loving you. I was just some tourist in your bed looking at the view. » C'est-à-dire, j'ai jamais eu le moindre talent pour t'aimer. Je n'étais juste un touriste dans ton lit qui admirait la vue.
Bah, il vous le dit dès le départ, dans une de ses premières chansons, « Like a bird on a wire », donc comme un oiseau sur un fil électrique, qui voit de sa fenêtre, et
Il dit, hein, j'ai déchiré, I'm torn out, j'ai toujours déchiré toute personne qui venait vers moi. To be free, pour être libre.
Et le désir a été une source... une source presque de torture pour lui. Ben oui, parce que ça colle pas avec son envie d'être libre.
La suite, c'est New York et le Chelsea Hotel, où il rencontre des anges dans les ascenseurs. Il devient songwriter et troubadour international avec un premier disque. Leonard Cohen conquiert la robe sur le dos de Suzanne. C'est l'adieu à Marianne. Le poète devient star. Puis Cohen entre par inadvertance dans une avalanche qui lui recouvre l'âme. De là, une dépression, des délitements, une apocalypse intérieure, un presque mariage, deux enfants et les premiers pas dans les monastères bouddhistes. Il s'essaie à la séduction compulsive, s'engage dans la guerre du Sinaï et dans les tentatives rock'n'roll, mais rien n'y fait. Ses ventes sont en chute libre. Il entend sa partenaire faire l'amour avec un inconnu dans une chambre d'hôtel attenante et c'est la mort d'un homme-femme. Suivent quelques anti-poèmes écrits avec une lame de rasoir et c'est la fin des années 70.
Quelle est la première chose, le premier dessin que vous avez envoyé à Leonard Cohen ?
Celui-là. Donc c'est une toile qui d'ailleurs est dans sa collection à lui. On voit le visage de Leonard Cohen et vraiment juste le haut des épaules avec la moitié ou plus que la moitié dans l'obscurité. On voit presque qu'un œil qui sort au fusain. Tout le reste c'est noir et l'autre côté du visage, l'autre moitié est lumineuse. Avec quelques... Là, il y a un petit peu d'or et d'argent. Un regard très grave. Je suis Sandra Zemmour, artiste. Je dessine, je peins. Je suis une peintre du noir avec juste quelques traits blancs, noir et blanc. Et j'ai mis longtemps à préparer la première lettre, avec les choisir les dessins, ceux qui étaient les mieux. Et dans une lettre, justement, sur le noir et le blanc, parce que j'envoyais que des dessins noir et blanc, il a dit quelque chose d'incroyable, ou je ne sais plus s'il me l'a dit quand on s'est vu. Merci pour le noir et le blanc, et merci pour toutes les couleurs qu'il y a entre. Et ça m'a... C'est la première fois que je me disais qu'il pouvait y avoir des couleurs entre le noir et blanc. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir eu cette relation pendant 20 ans. Ça, je me souviens parce que j'étais dans une période très dure, très difficile de ma vie, avec beaucoup d'épreuves. C'est ça aussi que je partage avec lui. Et il me disait de continuer. Et alors, ça, c'était comme la chanson, vous savez, qui dit... There is a law, juste accueil de l'autre côté de la tristesse et du désespoir, avec un amour si grand et si vaste qui t'atteindra partout. Ouais. Les gens disaient qu'il était pessimiste, ça le faisait rire d'ailleurs, parce que bon, bah, on a de l'eau jusqu'ici, quoi. Le chaos il est partout, donc au contraire, il essayait de parler de ce chaos qui nous touche tous. Moi, je le partage vraiment, cette blessure de l'exil, qui est un peu aussi un thème kabbalistique. Le monde a été créé, et on dit que par un chaos, où Dieu a créé tout, et tout a explosé. Les vases se sont brisés. Notre travail, artiste ou pas, tout le monde, c'est d'essayer de réparer, d'élever les étincelles. Comme un alchimiste, ou un kabbaliste, ou un soufiste, enfin, tous les grands, les grands hommes, ils transformaient, voilà. Là, il est en train de chanter et je fais un collage avec une lettre japonaise et une lettre hébraïque. Je crois qu'il chantait l'avalanche. Quand tout s'écroule, et on essaye de trouver de la lumière et de continuer.
I step into an avalanche. It covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath the golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well.
C'est une chanson qui commence par une phrase. J'ai marché dans une avalanche, elle m'a recouvert l'âme. Évidemment, c'est une métaphore qui nous parle de la dépression. Il s'en est pas caché, il a beaucoup abordé en interview le sujet de façon ouverte. Mais c'est une métaphore géniale dans le sens où la dépression, c'est un écroulement du monde, c'est une avalanche. L'univers entier s'écroule avec moi. Et d'autre part, c'est une inversion déjà des couleurs. Il fait de la maladie de la bile noire une catastrophe blanche.
You did not raise me there. Your laws do.
Dans cette avalanche, une voix va lui parler. Elle va lui dire: je suis ta souffrance et tu dois me servir.
I myself am the pedestal for this ugly hump at which you stand.
Une avalanche m'a emporté et recouvert mon âme. Quand je ne suis pas ce bossu que tu vois, je dors sous la colline d'or. Si tu veux conquérir la douleur, tu dois apprendre à me servir. Tu me frappes par accident quand tu descends chercher ton or. Je suis moi-même le piédestal pour ce monstre que tu regardes.
She'll hear it's just the shadow of my wound.
Si tu veux conquérir la douleur, tu dois apprendre ce qui me rend bon. Les miettes d'amour que tu m'offres sont les miettes que j'ai laissées derrière moi. Ta douleur n'a pas de créance ici. C'est seulement l'ombre de mes blessures. Je commence à te désirer, moi qui ne crois en rien. Tu me dis que tu es loin de moi, mais je te sens qui respire. Tour, ma bien-aimée, c'est ta chair que je porte.
Quand vous commencez à disséquer Cohen, c'est noir. Quand il y a de la lumière, comme il dit, there is a crack in everything, that's how the light goes on, il y a une craquelure qui va peut-être un jour vous mettre la lumière, mais bon, on est dans le noir quand même. Ce n'est qu'une craquelure. Mais je pense qu'en tant que Français, on n'entend pas Cohen dans le texte. Et quand on va dans le texte, on se dit, mais pourquoi j'apprécie cette œuvre? Elle est trop sombre. Moi, je me sens un petit peu coupable d'aimer Cohen. Pourquoi être attirée vers une poésie qui raconte autant de tourments?
C'est très dur, mais oui, c'est dur, c'est pessimiste, c'est noir, mais c'est un pessimisme joyeux, quelque part, chez Leonard Cohen. Enfin, c'est une joie grave, mais il y a une joie qui habite cet univers. Pourquoi? Alors, on peut l'expliquer de plein de manières, mais en ayant fait de ce vieux thème de la chute de l'homme, qui est un thème qui est dans la Bible, mais qui est un thème qui est dans la tragédie, on est tous concernés par ça. On veut tous vivre des vies idéales et on n'y arrive pas. Et il le sait et il voit les autres tomber. Pour moi, il a c'est un visionnaire de la loi de la gravité. C'est comme Newton, en fait. Newton, il voit une pomme tomber et il découvre les lois de l'univers. Leonard Cohen, c'est pareil. Il voit les hommes tomber et il comprend que la loi de la gravité, c'est une loi qui régit nos vies de façon absolue. Donc il n'a pas de choix. Il fait de la chute un des motifs centraux de son œuvre. Mais en faisant ça, d'abord, il nous fait un cadeau. Il nous sauve de toutes les fausses consolations qui nous viennent des idéologies bon marché, qui nous viennent des psychologies de confort, qui nous viennent d'une obligation de sourire. Enfin, il nous libère de ça et il nous rend la texture véritable de nos existences. Donc, on se dit, ah oui, c'est ça, je suis quelqu'un qui tombe. Donc, on peut explorer la chute après. On peut voir que peut-être qu'il y a une grâce à trouver dans la chute. Et là, c'est toute la force subversive de son pessimisme. C'est qu'il pousse le thème et le motif de la chute, il l'explore jusqu'au bout, jusqu'à montrer qu'en réalité, la chute, c'est quelque chose de tragique, mais c'est aussi quelque chose de comique. Que nos vies, finalement, elles sont drôles. Nos vies sont des films de Chaplin, sont des films burlesques. C'est l'endroit où apprendre à ne pas se prendre au sérieux, la chute.
Tout le monde sait que les dés sont pipés. Tout le monde les jette avec les doigts croisés. Tout le monde sait que le bateau fuit. Tout le monde sait que le capitaine a menti. Tout le monde sait que tu m'aimes, chérie. Tout le monde sait que tu m'aimes vraiment. Tout le monde sait que tu as été fidèle à une ou deux nuits près. Tout le monde sait.
Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton.
Everybody knows.
For your ribbons and bows. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows.
Il y a une série de photos qui sont prises par son assistante, où pendant sa longue tournée mondiale, on voit Leonard Cohen dans sa chambre d'hôtel cirer ses chaussures avant son concert. Apparemment, c'est un rituel qu'il avait tous les soirs, il cirait ses chaussures. Et pour moi, ça a été comme une illumination de voir ces photos, parce que il m'a semblé qu'il faisait là un aveu. Il nous montrait la véritable nature de son activité. Il nous dit « je suis un cireur de chaussures », c'est-à-dire « je suis un alchimiste ». Parce que c'est la même chose. Un cireur de chaussures, c'est quelqu'un qui transforme le noir mat en noir brillant. C'est-à-dire qui frotte le noir jusqu'à ce que le noir prenne les propriétés de la lumière.
Give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes.
Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows.
Adagio. Lente rédemption par le Zen, le livre des psaumes est un patient retour aux sources sur de mystérieuses mélodies. Il s'achète des costumes croisés noirs, un clavier Casio avec boîte à rythme et séquenceur intégré, et met 4 ans à écrire Hallelujah. Sa maison des disques ne répond plus à ses coups de fil, mais le temps travaille pour lui. Leonard Cohen accède au statut d'artiste culte. Il fume 50 000 cigarettes et relit Ézéchiel. Son objectif, chanter 2 octaves plus bas. Cohen se retire dans un monastère au terme d'une longue tournée, enfin vaincu par les Bordeaux millésimés. On le retrouve sur une montagne de Los Angeles à boire du saké et du cognac avec son vénérable maître et ami Joshu Sasaki Roshi.
Monboldi, donc, c'était un monastère zen. C'est une espèce de camp de scout, des baraques en bois, dans un univers de forêt un peu clairsemé. C'est très rocailleux. Alors c'est du zen rinzai, c'est-à-dire que c'est du zen japonais, c'est très masculin, et c'est le zen où les moines sont en noir, où il y a le bâton donc pour vous réveiller les épaules, pour vous rendre plus droit, et où on peut méditer, ça paraît fou, mais c'est vrai, jusqu'à 15 heures par jour, sur des bancs en bois. Ça veut dire qu'au moindre petit mouvement, ça craque, et si vous en faites trop, vous êtes viré. Donc j'ai tout fait pour rester droite et ne pas bouger. Et le maître m'avait donné la place à côté du chanteur. Donc ça ajoutait encore à la complicité, c'est-à-dire qu'on a commencé notre... les premiers contacts au quotidien que j'ai eus avec Cohen, c'était dans l'immobilité, 15 heures par jour, côte à côte. Donc je m'appelle Armelle Brusque, je suis réalisatrice de documentaires. Et Cohen, je l'ai rencontré parce qu'il fallait. Moi je suis arrivée de nuit là-bas, donc c'était la nuit noire. Et donc dans la nuit, vous voyez passer des robes noires qui font énormément de bruit sur le gravier, c'est très impressionnant. Et... vous croyez dans un tableau de soulage, noir sur noir. Et donc, le film commence donc à 3 heures du matin avec les moines qui marchent au pas. On voit Cohen qui cuisine pour Roshi dans l'environnement proche du maître. On le voit prendre la route avec Roshi, dont il revendique dans le film qu'il souhaite rester là pour apprendre de Roshi. Et le moment où moi je le filme, c'est le moment où il vit dans le monastère. C'est-à-dire qu'avant il y allait, il revenait, et là vraiment c'est il y vit, même s'il s'échappe de temps en temps pour aller à son bureau à Los Angeles, comme on le voit, et chez lui. Mais c'est quand même sa résidence principale pendant 5-6 ans, entre 92 et 99 à peu près.
Pour moi, personnellement, la dépression a toujours été un sujet central dans ma vie, toute ma vie. Et comme tout le monde, j'ai essayé différents moyens de faire face à cette dépression. La drogue, les femmes, l'art, la religion. Chacun essaye ce qu'il peut. Finalement, en dernier recours, on peut venir ici. Parce qu'ici, en fait, tout ce qu'il y a ici, c'est une grande pièce avec des coussins pour s'asseoir dessus, avec d'autres gens, et puis essayer de trouver son sauvetage pour soi-même. Il n'y a pas de philosophie dogmatique. Il y a un vieux monsieur ici, un professeur. Il a 90 ans. C'est une personne formidable parce qu'il a déjà résolu justement toutes ces questions-là dans sa vie. Il change tout le temps, celui-là. Parfois, il ressemble à votre grand-père. Parfois, à votre bébé. Parfois, il ressemble à votre ennemi ou à votre ami. Il répond à l'esprit que vous apportez dans la pièce. C'est pour ça qu'il est aussi intéressant. Et on lui parle de nos problèmes et lui, il vous parle de sa liberté.
Faut pas oublier toujours cette dépression, hein, latente. C'est pas une dépression genre j'ai le blues, hein, il dit. C'est comment passer d'un instant à l'autre. C'est ça la dépression de Cohen, faut le savoir. Et quand dans ses chansons, il dit, ça revient plusieurs fois, « When I was sick in bed », quand j'étais malade au lit, c'est qu'il est crucifié sur son lit à pas pouvoir bouger, hein. On est quand même dans une dépression extrêmement profonde. Et Cohen allait au monastère comme il aurait été à l'hôpital. Il le dit lui-même. It's an hospital. Choisir de vivre là-bas avec toutes ses règles, sous la dominance quand même d'un maître, c'est mieux que le suicide.
Your crown and your seal and rings. Here is your love for all things.
Here is your cart, your cardboard and piss. And here is your love for all this. May everyone live. Everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
Voici ta couronne, et ton sceau, et tes bagues, et voici ton amour pour toutes choses. Voici ta charrette, et ton carton à l'urine, et voici ton amour pour tout ceci.
Here is your sickness, your bed and your pain. Here is your love.
Voici ton vin et ta chute d'ivrogne. Et voici ton amour. Ton amour pour tout. Voici ta maladie, ton lit et ton pot. Et voici ton amour pour la femme et pour l'homme. Puisse tout le monde vivre. Et puisse tout le monde mourir. Bonjour, mon amour. Et mon amour, adieu. Et voici la nuit. La nuit a commencé. Et voici ta mort dans le cœur de ton fils. Et voici l'aube jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et voici ta mort dans le cœur de ta fille. Puisse tout le monde vivre et puisse tout le monde mourir. Bonjour, mon amour. Et mon amour, adieu. Et te voici pressé, et te voici parti. Et voici l'amour sur lequel tout est construit.
Here is your cross, your nails and your heel.
Et voici ta croix, tes clous et ta colline. Et voici ton amour qui erre où il veut. Bonjour, mon amour. Mon amour, adieu.
C'est quand même quelqu'un au départ qui est plein d'images bibliques, surtout, et qui utilise tout ça en parallèle avec des choses très prosaïques. Et c'est une des choses que je trouve très forte dans la poésie de Cohen. Et c'est pour ça que c'est sans fond, sans fin, et qu'on s'y perd et qu'on cherche avec lui. C'est qu'il y a ce clin d'œil comme ça à la vie quotidienne. Et puis, il y a ce miroir qui tend ou cette main qui tend vers... vers le sublime.
Dans toute la première partie de l'œuvre de Leonard Cohen, il y a cette idée qui se maintient d'ailleurs, mais elle est très très présente dans la première partie de l'œuvre, que l'amour c'est le feu et que dans le feu, on brûle et que donc on se consume. Et que donc on est réduit en cendres, et que donc on n'existe plus, mais c'est le seul endroit où on peut devenir lumineux. Lui a longtemps, je crois, résisté à ça, et progressivement, au fur et à mesure des décennies, dans son œuvre, cette métaphore du feu devient plus discrète, et elle est remplacée par une autre métaphore, qui est sans doute quelque chose de plus bouddhiste, de la dissolution. L'amour, c'est juste une dissolution, dont il n'y a pas à avoir peur parce qu'on va toujours revenir. Et il y a une chanson qui s'appelle Love Itself sur l'album Ten New Songs en 2001, qui est le disque qu'il enregistre au sortir du monastère, disque d'une grande beauté. Et dans cette chanson, il décrit comment un rayon de soleil pouvait faire l'amour avec des grains de poussière. Et le rayon, il est là un instant, et puis il est parti. Et on s'est dissolu dans cet instant. Et tout de suite après, on revient. Donc c'est plus le feu qui nous consume, c'est une dissolution qui arrive 20 fois par jour, puisque progressivement dans son œuvre, il ne s'agit plus seulement de ce premier amour de chair qui reste un des thèmes fondamentaux de son œuvre. Hein. Mais il s'agit d'un amour plus vaste qu'il appelle longing. Comment tomber amoureux de chaque instant de son existence? Comment l'amour n'est pas juste le désir, mais aussi notre condition fondamentale? Je veux dire, nous sommes dans l'amour comme nous sommes dans l'air et comme nous sommes dans le verbe.
Alors, je ne sais pas s'il attendait l'éveil. Est-ce que le miracle qu'il attendait, c'était l'amour ou l'éveil? Je ne sais pas. Vous savez, on voit apparaître dans les portraits de Cohen un sourire différent avec la vieillesse, on va dire. Et je pense que ce sourire-là correspond, un sourire assez juvénile d'ailleurs, qu'il n'avait pas plus jeune. Et je crois que ce sourire, c'est un peu la libération du désir, quoi.
La lumière a traversé ma fenêtre, venant tout droit du soleil en haut. Et c'est ainsi qu'à l'intérieur de ma petite chambre, les rayons d'amour ont plongé. Dans les rivières de lumière, j'ai vu clairement la poussière qu'on voit rarement. D'où le son-nom donne un nom à quelqu'un comme moi. J'essaierai de dire un peu plus. L'amour continuait encore et encore, jusqu'à atteindre une porte ouverte. Et puis l'amour lui-même a disparu. Tout s'affairait dans la lumière du soleil. Les petites taches de lumière flottaient et dansaient. Et j'ai dégringolé avec elles, dans des circonstances sans forme. J'essaierai de dire un peu plus. L'amour continuait encore et encore, jusqu'à atteindre une porte ouverte. Et puis l'amour lui-même a disparu. Et puis je suis revenue de là où j'étais. Ma chambre n'avait pas changé, mais il ne restait plus rien entre le son nom et le nom. Tout s'affairait dans la lumière du soleil, les petites taches de lumière flottaient et dansaient. Et j'ai dégringolé avec elles dans des circonstances sans forme. J'essaierai de dire un peu plus. L'amour continuait encore et encore, jusqu'à atteindre une porte ouverte, et puis l'amour lui-même a disparu. L'amour lui-même a disparu.
Il paraît quand même qu'au moment de, après Bombay, de son maître indien, il a acquis quelque chose de l'éveil, de la dimension de l'éveil, où il se rendait compte qu'il était soulagé de se dire finalement on n'était pas responsable de tout. On faisait fait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais il y a une part qu'on ne peut pas contrôler. Donc ça, c'était une forme de légèreté, d'éveil, et justement de ne plus être dans la quête. Je crois que c'est le soulagement.
Et à un moment, il dit « Listen to the mind of God that doesn't need to be. Listen to the mind of God, don't listen to me. » Écoute l'esprit de Dieu qui n'a pas besoin d'être. Donc, il ouvre pour nous, en tout cas, la possibilité d'un agnostisme. Il a dit de nombreuses fois en interview que lui a eu la grâce de ressentir dans sa vie, souvent, la présence de l'absolu. Mais il a toujours été très clair sur cette idée que c'est pas une poésie pour croyants. C'est un, comment un Alléluia peut-il inclure un doute ? Ça, c'est une des questions que pose son œuvre. Sur ce disque, évidemment, à l'acmé du noir.
Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
Sur le disque You Want It Darker, qui est sorti quelques semaines seulement avant la mort de Léonard, il chante son kaddish. Il prononce les prières de bénédiction du nom divin, qui, traditionnellement maintenant, accompagnent les enterrements. Donc, l'heure est grave, parce que c'est l'heure des adieux.
Si c'est toi qui donnes les cartes, je me retire du jeu. Si tu es guérisseur, je suis brisé, boiteux. Si la gloire est tienne, alors je suis honteux. Tu le veux plus sombre? Nous tuons le flamme. Me voici, je suis prêt, mon Dieu.
En même temps, il s'adresse à son créateur en lui disant, sur un ton où l'humilité le dispute à l'irrévérence, en lui disant, tu veux plus de noir ? Ah ben on éteint la lumière. Et là aussi, il rend à nouveau l'activité de prière subversive. Et toute l'esthétique du disque, avec la cigarette, avec le costume croisé, avec le chapeau feutre et les lunettes de soleil sur la pochette, toute l'esthétique nous conduit là. On peut parler à Dieu comme un mafioso à son parent.
J'ignorais que j'avais la permission de tuer, de mutiler. Un million de cierges brûlent pour une aide jamais venue.
I'm ready, my lord.
Il dit, je suis prêt. Hineni. Et il y avait en lui une détente et un humour tel qui montrait une évidence absolue de l'absence de peur.
Me voici, je suis prêt, mon Dieu. Tu le veux plus sombre. Me voici.
C'était Leonard Cohen, transformer le noir en lumière. Avec Christophe Lebold, Sandra Zemmour et Armel Brusque. Merci à Jacques Vassal, Dominique Boal, Gilles Torchman et Dominique Isserman. Lecture Geoffrey Carey et Céline Terce. Extrait du livre de Christophe Lebold, Leonard Cohen, l'homme qui voyait tomber les anges, et du film d'Armel Brusque, Leonard Cohen, portrait intime. Archivina Synergie par Jean-Luc S. 1997. Prise de son Alain Joubert, Pierre Quintard et Jean-Louis Deloncle. Mixage Alain Joubert. Coordination Irène Omelianenko. Et attaché d'émission Claire Poinsignon. Un documentaire d'Élise Andrieux, réalisé par Céline Terce.